Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario.
Bonjour.
C'est jour de budget, ça accapare toute l'actualité alors que ça sort au compte-gouttes.
J'ai le vertige, monsieur.
Ben oui, parce que à l'heure où on enregistre cet épisode, Mario, là, ça vient tout juste de sortir du four, on peut le dire.
Et j'ai le vertige.
Ouais, on a le vertige parce qu'il faut comprendre que les collègues journalistes, les analystes, les membres de certains groupes...
Non, mais je parle pas de vertige parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour l'étudier. Je pense que j'ai le vertige de l'ampleur du déficit.
Ouais, parce que ça,
la hauteur du déficit, là, quand j'embarque sur le déficit, je regarde en bas, j'ai peur.
Ouais, moi je pensais que le déficit, m'as volé les mots de la bouche. Tu vois, je pensais justement que c'était ça, le déficit. Peut-être que
finalement, je suis claustrophobe.
Tu vois le petit trou de lumière en haut.
C'était un déficit record de tous les temps. Écoute, jamais je n'ai vu venir ça. Tu sais, on avait déficit de l'année de la COVID. Et tout était fermé pendant des mois. Là, les restaurants, tout était fermé. Le gouvernement avait sorti l'argent, acheté des masques.
Et pourtant, 10,7 milliards, c'était le déficit
c'était
pendant la COVID.
Cette année-là.
Et là, 11 milliards de dollars.
Incroyable.
Il n'y a pas juste le Bitcoin qui fait des records, Mario. Le déficit
incroyable.
Du Québec aussi. Alors qu'on repousse jusqu'en 2030, maintenant, là, le retour à l'équilibre budgétaire. On n'explique pas comment on va le faire, par contre, Mario. Là. Si on dit que c'est l'an prochain qu'on va expliquer comment on va revenir à l'équilibre budgétaire, donc si on met ça sous le tapis pour l'instant...
On se donne un an pour faire un plan de gestion des dépenses, mais c'est un budget où on semble avoir un peu échappé...
Parce que là, on blâme toutes sortes de facteurs. On dit que c'est la santé économique en ce moment qui est pas bonne.
C'est pas faux. Il y a un ralentissement. En même temps, il n'y a pas une récession profonde de fou. Il y a un ralentissement. L'économie stagne autour de 0% de croissance. Mais...
Après ça, il y a les catastrophes naturelles. Ça coûte excessivement cher. Là, les feux de forêt monstres de l'an dernier. On dit que ça aussi, c'est venu plomber le budget.
Je crois ça aussi. Il y a évidemment les conventions du secteur public. Il y a une couple de milliards là. Mais quand même, on avait le déficit prévu. Je regardais encore la mise à jour économique de novembre. La mise à jour économique qu'Éric Girard a déposée en novembre, puis il avait fait sa gradation. Là. Puis le déficit pour l'année en cours devait être 4 milliards.
Oui.
Là, il est 4 mois plus tard.
Il est presque trois fois plus gros.
11 milliards.
C'est vrai qu'il y a quelque chose de bizarre là-dedans quand même.
Il y a quelque chose d'énorme. Ça veut dire que l'économie va moins bien que prévu. Ça veut dire que vraiment, ils ont signé avec le secteur public, mais des conventions qu'ils n'avaient jamais planifiées. Mais peut-être même que leur planification était insuffisante. Puis, ça veut dire aussi que le gouvernement, excuse-moi, mais il est dépensier. Là. L'argent, il va quelque part. On le dépense dans plein d'affaires.
Oui, on le dépense dans plein d'affaires. Puis malgré tout, mais là, on a commencé à serrer la ceinture de certains ministères, Mario, en disant toutes sortes de choses à gauche, à droite. On dit, oui, ça va être cure minceur le ministère. Mais pas question de limoger un seul fonctionnaire de l'État. Tout le monde va rester en place. Donc, comment on va couper? Mais c'est pas précisé encore. Là. Il y a des ministères déjà qui sont passés par la trappe. Là. Le ministère du Tourisme là, voit ses programmes diminuer d'au-dessus de 7% en ce moment.
Mais tu comprends que, mettons, j'ai pas le chiffre d'un, mais le ministère du Tourisme, d'après moi, doit avoir un budget, mettons, là, je sais pas, mettons, c'est 100 quelques millions, peut-être 200, je sais pas combien. Là.
C'est pas le ministère de la Santé. Hein?
Non, non, non. Là, tu vas couper 7%. Mais mettons, je faisais un chiffre, 100 millions, là, 7%, c'est 7 millions. Au ministère de la Santé, là, tu dépenses ça dans une demi-heure. Là.
Oui, à peu près. C'est pas une blague.
Mais tu comprends? Avec là, t'as fait un carnage dans le ministère du Tourisme. T'as coupé 7% du budget. T'as fait un carnage dans le ministère du Tourisme.
Puis tu gères la santé pendant une journée.
Ben, tu sais, je veux dire, dans le domaine de la santé, tu rénoves un hôpital, là, tu changes d'idée sur une salle. Ça vient de coûter 7 millions. Je veux dire, tu exagères à peine. Fait que c'est pour ça que c'est... C'est le secteur de la santé et de l'éducation, mais surtout de la santé qui gruge tout le budget. Fait qu'on on a tendance à exagérer là, les efforts qu'on peut faire dans les autres ministères. Puis je dis pas qu'il faut pas en faire, là, mais on a tendance à voir ça plus gros que c'est.
Oui, avoir ça plus gros que c'est.
Dans des petits ministères qui ont peu de budget.
Oui, puis dans d'autres cas, ben c'est des coupes qui peuvent sembler inconséquentes avec ce qu'on dit. Là. Par exemple, du côté du ministère de l'Environnement, On a des coupes, Mario. Là. On a annoncé des coupes du côté du ministère de l'Environnement. Là, on réduit d'à peu près 1,4%. On dit c'est du
mais
côté
c'est
de certains organismes.
Ministère, mais ce que je comprends, c'est qu'à cette heure, dans l'environnement, c'est pas... C'est le fond, il y a un fond d'investissement, puis c'est le fond qui...
Ils ont dit que c'est à 5,4%. Là. Ce serait plus haut là, que ce
qui... On met l'argent dans le fond et non pas des fonctionnaires du ministère. Maintenant, est-ce qu'on va se faire dire qu'on coupe des inspections, qu'on coupe le...
Ce qui est spécial, c'est que là, on dit que cette année, ça va être une année record en termes de feux de forêt. On dit aussi que ça a coûté cher et que le déficit, en partie, c'est à cause des feux de forêt qui ont tout démoli. Là, on annonce la pire année de feux de forêt... Puis on donne 29 millions de dollars pour la SOPFEU, pour les embauches et nouveaux équipements, par exemple, là-dedans. C'est réparti sur 5 ans. Donc, pour 2024-2025, Mario, puis j'apprécie le travail de nos collègues, entre autres de TVA Nouvelles, qui signent le texte, ben c'est 7 millions de dollars pour la SOPFEU. Et la douce ironie, 7 millions, c'est quoi aussi? L'avenue des Kings de Los Angeles à Québec. Donc bref, tu sais, il y a toutes sortes d'ironies comme ça qui sont amenées.
Quelques nouvelles qui touchent directement des consommateurs ou des groupes. Un petit mot pour les fumeurs.
Bon. Ouais, un petit mot pour les fumeurs qui vont pas être de bonne humeur aujourd'hui parce que ben on va augmenter deux fois de suite la taxe sur le tabac, donc de 2$ à partir du 13 mars. Donc c'est très bientôt.
C'est minuit ce soir.
Minuit ce soir. Mais là ça va passer là, pour une cartouche de 200 cigarettes de 37,80 à 39,80. Et là, 6 janvier 2025, on augmente encore même affaire. On va monter à 41,80 pour les 200 cigarettes. On dit que c'est 300 millions de plus, hein, ni plus ni moins, qui va tomber dans les 5 prochaines années dans les poches du gouvernement.
Je sais pas ce qui va arriver, mais souvent, quand les gouvernements ont projeté des nouvelles sommes, tu sais, tu prends le nombre de cartons de cigarettes, tu fais multiplier par 2$ de plus, c'est facile à faire comme exercice. Mais ce qui marche pas dans l'exercice, c'est que tout à coup, tu en vends moins.
Parce qu'il y a des gens qui vont à Kanawake.
Pourquoi tu dis ça? Il y a des gens qui vont aller, pour pas le faire penser à personne, il y a des gens qui vont dire, ben, passer un certain seuil, là, c'est trop. Je paye plus les taxes, je m'en vais acheter des cigarettes sans taxes.
C'est le risque de tomber sur le marché légal, effectivement, qui tombe à ce moment-là.
C'est ce qui s'est produit dans le... En fait, on a coupé drastiquement, il y a plusieurs années, les taxes sur les cigarettes. Pas parce qu'on trouvait que c'était pas grave pour la santé, parce que les associations de dépanneurs, tout ça, faisait un lobbying constant pour dire là c'est ridicule, on vend plus de cigarettes, toutes les cigarettes se vendent au noir, on a, tu sais, genre le légal avait plus la moitié du marché là. Le côté légal disait ne plus être capable de compétitionner contre les cigarettes au noir. Oui. Un mot sur les subventions aux véhicules électriques, ça aussi ça va changer.
Ouais, si vous voulez vous acheter une auto électrique là, je voudrais bien vous dire faites ça maintenant, on se comprend qu'avec les chaînes d'approvisionnement,
oui, peut-être plus,
faites-le maintenant, ils vont peut-être arriver dans 2 ans, mais on se comprend, c'est maintenant ou jamais que vous pouvez acheter une voiture électrique.
Mais on coupe pas tout d'un coup, là, on coupe par étapes. Je pense que c'est 50% au 1er janvier prochain, puis après, ça va descendre jusqu'en 2027.
Exactement, c'est des paliers progressifs là, qui vont commencer à descendre. Puis 1er janvier 2027, c'est terminé, Mario. Il n'y aura plus de financement, là, justement, là, donné du provincial pour l'achat d'une nouvelle auto électrique. Et là, ben, y a des programmes qu'on coupe, des programmes qu'on bonifie, Mario, aussi, de ce côté-là. Puis je sais que la Coalition Avenir Québec a été dénoncée dans les derniers mois pour reculer sur certaines de ces mesures. Mais il y en a qui vont peut-être trouver justement que c'est un recul rapide, entre autres, sur le programme d'embauche des travailleurs de plus âgés pour venir dans les entreprises. Hein. Le programme d'aide aux entreprises, on venait de l'annoncer, là, ça faisait pas longtemps que ça avait été là, mis sur la table. Et on le retire déjà, c'est terminé. Donc, il n'y aura plus aucune aide de l'État à ce fonds-là du maintien des aînés au travail. Du côté du ministre Girard, on dit que c'était un programme qui était pas très populaire, pas très performant, très peu réclamé par les entreprises. Puis c'est donc ce qu'on justifie pour justement prendre cette décision-là. Mais d'un autre côté, les programmes accélérés en construction, Mario, à un moment où on n'a jamais aussi peu construit dans le résidentiel et autres au pays, mais on continue d'allonger de l'argent pour ce programme-là. Entre autres, formation accélérée payée en construction, charpentier, menuiserie, on ouvre une nouvelle cohorte à partir de ce printemps. Les monteurs de ligne aussi, un nouveau programme qui va être ajouté autour de tout ça. Monteurs de ligne, ça risque d'être utile, on s'entend, avec l'expansion qu'Hydro-Québec veut faire. Donc, on a, encore une fois, là, des programmes coupés, ajoutés, bonifiés. Dans construction, somme toute, c'est une bonne nouvelle de voir aussi si c'est, on n'avait pas eu d'écho tant que ça de si c'était, il y avait des preneurs ou pas pour le programme. Là, on voit que c'est populaire, puis pas à peu près, Mario.
Et ce que je voyais aussi, c'est qu'on demande aux sociétés d'État, Hydro, l'Auto-Québec, la SAQ, les grosses sociétés d'État, on leur demande de serrer la ceinture, on leur demande de récupérer, pas sur 6 mois, là, sur 5 ans, on leur donne quand même beaucoup de temps, mais on leur demande de récupérer 1 milliard dans leurs dépenses de fonctionnement.
Ouais, c'est de l'argent.
Oui, sur 5 ans, ça te donne le temps de faire un plan. Mais ça, ça veut dire que c'est un milliard de... Parce que là, dans ce qui empire probablement le scénario pour le ministre des Finances, les trois vaches à lait là, que je viens de nommer, Hydro, la SAQ et l'Auto-Québec, les trois ont des profits en baisse. Ce qui arrive rarement, là. Tu sais, Hydro, ouais. Mais là, Hydro. Faut dire qu'Hydro avait eu une année exceptionnelle l'année d'avant sur les exportations. Là, c'est en baisse. L'Auto-Québec, ben, c'est, ça va un peu moins. Ça joue un peu moins. Et la SAQ, et ça arrive jamais, là. On dit toujours les ventes de la SAQ augmentent. Non, depuis deux trimestres, les ventes de la SAQ sont en baisse. Ils sont pas en effondrement, mais ils sont en baisse, bien réelle, là. Ça...
Fait que là, les Québécois jouent plus, puis ils boivent plus.
Ou ils boivent du moins cher.
Ils boivent du dépanneur.
Ou je sais pas. Ou le sans-alcool gagne de la popularité aussi. Tous les produits, là, t'sais, les imitations, les produits sans-alcool, ça gagne de la popularité. Mais donc, les trois vaches à lait du gouvernement, là, c'est trois sur trois qui ont des profits en baisse.
Voilà. Et pour terminer aussi, ben on a parlé beaucoup des frais, de ce que ça a coûté, entre autres, ici au provincial, avec les demandeurs d'asile qui viennent, qui seraient censés être une responsabilité d'Ottawa. Il y a de la chicane sur les chiffres puis sur l'argent, mais c'est quand même 320 millions de dollars de plus dans le budget qui sont allongés pour franciser les immigrants là d'ici 2028-2029. Donc, on dit que juste l'intégration, là, toutes les autres sommes aussi, là, en dehors du français, c'est 80 millions pour la même période. Donc, de ce côté-là aussi, Mario, il faut allonger de l'argent. Puis, je m'en voudrais, on en a parlé tantôt, mais de pas parler de santé, Mario, ouais. De pas parler de santé, parce que là... Une annonce qui a déjà été faite, j'ai l'impression, même à mon jeune âge, des dizaines de fois, on va numériser la santé. C'est fini le fax, Mario. Tu l'as entendu ici en premier, c'est fini le fax dans le réseau de la santé. 900 millions de dollars pour numériser la santé, Mario. C'est le montant qui est allongé.
C'est pour ça que ta phrase est finie. C'est fini le fax d'ici, genre 2027, 28.
Oh, mais là, on n'a pas mis de
date. Ça sera pas fait demain matin, là, Alexandre. Ça sera pas fait demain matin, là. C'est fini le fax d'ici 2030. Non, avant ça.
Non, mais j'ai trouvé ça intéressant, par contre, parce qu'il parle d'utiliser, pis on se comprend, on est à l'aube de ces technologies-là, l'intelligence artificielle, maintenant, pour délester des tâches administratives dans le réseau de la santé. Donc, ça semble être une bonne idée sur papier.
Ça s'appelle un bon technologique. Quand t'es tellement lent, je te donne un exemple des pays pauvres n'ont jamais eu le téléphone filaire. C'est-à-dire qu'ils étaient trop pauvres, il n'y avait pas encore les réseaux de fils de téléphone.
Ils sont passés direct au cellulaire.
Fait que nous, le ministère de la Santé est tellement lent qu'il y a toute une génération. Il va passer direct du fax à l'intelligence artificielle. C'est un phénomène un peu de tiers-monde, là.
C'est-tu pas beau, tout ça?
C'est magnifique. C'est une des bonnes nouvelles.
Vive le progrès.
Tout savoir en 24 minutes.
Non, les autres. On peut pas parler du fax sans même. Je suis à mon ordinateur dans mon bureau à la maison. Je suis en train d'écrire, je sais pas quoi. Ma fille, à peu près, a travaillé. C'était un de ses premiers travaux. Elle s'était blessée au travail. Arrive avec des yeux ben ronds dans la porte du bureau. Elle dit pas. C'est quoi un fax? Parce qu'on lui demandait. Tu sais, je sais pas trop quoi. Là.
Faut que vous nous faxiez ça.
Ouais.
Mais moi, je t'avoue, si quelqu'un me demande de faxer quelque chose, là. Je veux pas dire le terme, je suis mal foutu, je suis mal pris.
Je pense que peut-être dans une pharmacie ou un bureau de poste, ils peuvent te faxer quelque chose pour toi, je pense que oui.
Mais tu sais, quand on parle d'une technologie dépassée, là,
c'est incroyable.
Ça se peut pas qu'on utilise, en tout cas,
ma fille avait 20 ans, elle avait jamais entendu le mot.
Oui, c'est comme les gens...
Mais là, c'est qu'on rit de ça, mais ça fait 7 ans de ça. Ça fait 7 ans de ça, puis on est toujours avec des fax dans le réseau de la santé.
900 millions de dollars, mesdames et messieurs.
Pour régler ça.
C'est fini, enfin.
On sait pas d'ici quelle année. Là. Ça doit être écrit d'un petit caractère, mais que je lise le budget à soir, me le trouver. Là, quelle année c'est fini le fax?
On vous arrive avec ça demain. Bon, on a beaucoup ri de ça, mais un autre dossier qui fait rire, sourire, ou un peu moins, dépendamment, puis qui parle encore d'argent, mais c'est le fiasco d'ArriveCan, hein, l'application au fédéral. Puis là, ben c'est une énième enquête qui est déclenchée autour de cette application-là. Maintenant, là, c'est la commissaire à l'intégrité qui ouvre une enquête à son tour, là, après les enquêtes, je le rappelle, de la vérificatrice générale, de l'ombudsman de l'approvisionnement, de l'enquête interne de l'Agence des services frontaliers du Canada, du comité parlementaire des opérations gouvernementales et des comptes publics. Donc, on est rendu à une coupe d'enquêtes sur ArriveCan.
Oui, mais c'est mieux que pas du tout.
Oui.
Dans un cas comme ça, c'est mieux trop d'enquêtes que pas d'enquête du tout. Je continue de penser à cette étape-ci que tout ce qui est l'aspect non policier, là, tout ce qui est l'aspect, on va dire, administratif, moi, je suis pas contre qu'ils s'en fassent plus, mais je commence à avoir mes réponses. Moi, je suis rendu à l'enquête criminelle. Je suis rendu à savoir, est-ce qu'il y a des gens... Tu sais, dans le fond, on saura peut-être jamais, mais est-ce qu'il y a des factures qui ont été faites en échange de aucun travail? Est-ce qu'avec mes taxes et mes impôts, ils ont payé certaines factures, mais pas des factures de 50 piastres, des centaines de milliers, des millions de dollars. Est-ce qu'il y a des chèques qui ont été faits, sortis du gouvernement, basés sur une facture, là, je paye telle facture, 1 million, tiens, voici le chèque, puis il n'y a pas de travail qui a été fait. Ce qui devient, carrément, du vol. Moi, je suis rendu là, c'est ça la question.
Actualité.
Il n'y a pas juste les déchets qui ressurgissent quand la neige fond au printemps, Mario, à Montréal. La vermine aussi. Les rats, hein, un sujet qui est cyclique en actualité. Là, pendant la pandémie, les locaux étaient vides, il y avait des rats partout. Là, les bureaux se sont remplis à moitié, les rats sont moins là. Mais moins là, partout, non, Mario. Une station de métro résiste encore et toujours à l'envahisseur. On dit qu'à côté là, de la gare Jean-Talon et de la station du métro Parc, c'est rempli de rats, là, vraiment. Puis c'est un endroit qui est excessivement fréquenté. Là, il y a une épicerie Maxi juste en face, il y a des plates-bandes, il y a un beau parc. Et là, ben, les photos, les images...
Il y a un beau parc où les gens nourrissent les animaux.
Mais c'est ça le problème. Puis là, on dit que ça fait partie,
justement... Parce qu'il y a des beaux petits écureuils. Puis les gens, ben, ils savent pas, un écureuil, c'est un rat qui a un manteau de fourrure. Fait que c'est besoin de manger au rat qui a un manteau de fourrure. Les rats, pas de manteau de fourrure, les autres rats vont aussi venir manger la même nourriture.
Voilà. C'est ce qui les attire. Ils disent qu'ils veulent alimenter les pigeons, Mario. Les pigeons, c'est-tu des rats avec des ailes?
Non, ouais, des rats volants.
Des rats volants?
Mais les rats volants, il y en a deux sortes. Okay. Les goélands puis les pigeons.
Okay.
Mais en ville, c'est plus les pigeons. Si tu t'approches de la mer, c'est plus les goélands.
J'ai assez hâte qu'on parte notre émission de nature, là, ici, là, de biologie. Les rats avec Mario Dumont, Alexandre.
Mais, ce matin, j'ai dit ça à LCN. Il y a un monsieur qui m'a écrit là, avec tout le pedigree le biologique du rat, là, de l'écureuil, pardon, pour m'expliquer que c'est pas un rat. Là.
Bon, on s'excuse.
Donc, l'écureuil, contrairement à ce qui est véhiculé, ne serait pas un rat portant un manteau de fourrure.
Voilà, on vous salue puis on s'excuse à la maison. Mais ouais, il y a des rats, des vrais, ceux-là, pas de manteau de fourrure, mais qui prolifèrent vraiment. Il y a des vidéos qui ont été prises par des associations là, d'habitants du quartier, Mario, qui sont assez, j'allais dire cocasses, mais c'est un peu terrifiant en même temps. Là, on voit des plates-bandes avec des trous, là, on dirait comme des petits terriers. Puis hop, des rats qui circulent là, en haut, en bas, à gauche, à droite, ça part de partout. Puis même les exterminateurs, là, puis dont certains, on les connaît bien parce qu'ils réagissent souvent dans les médias, là, l'entreprise d'extermination Maheu, entre autres, qui disent qu'ils se sont rendus sur place, ils ont été embauchés, ils ont travaillé, ils ont mis des pièges à rats, il y en a encore partout.
Mais parce qu'ils disent que les gens les nourrissent. Fait que nous autres, on travaille... En fait, ils disaient qu'ils avaient mis... j'ai parlé ce matin à un des actionnaires. Ils disaient qu'ils ont mis des pièges en paraffine, peut-être du poison en paraffine. Mais tu sais, le poison, là, il ne mange pas parce qu'il y a assez d'autres nourritures.
Ah, ils ont pas faim.
Ils ont pas faim parce qu'il y a du meilleur stock. Là, fait qu'ils vont pas manger le poison tant qu'il y a mieux à manger. C'est comme le dernier recours. Il faut qu'il y ait faim pour aller manger le poison. Fait que le poison ne fonctionne pas vraiment parce que quand il y a un reste de sandwich, j'ai quelqu'un qui allait rentrer dans le métro et qui a pitché son reste de sandwich à terre.
Oui. C'est sûr.
Mais le rat, il va choisir le reste de sandwich avant le petit poison.
Peut-on le blâmer pour sa décision?
Peut-on le blâmer? D'autant plus que c'est meilleur pour sa santé.
Oui. On salue les rats aussi.
Tout savoir en 24 minutes.
Bon, dans les nouvelles insolites de Montréal, il y en a une qui va faire des heureux, Mario, qui a été découverte, on va le dire comme ça. Vous vous souviendrez peut-être que dans les dernières semaines, sur l'avenue Notre-Dame-Est, c'était le bordel pour circuler, entre autres, parce qu'il y avait un énorme trou en plein milieu de la chaussée. Puis là, on avait dû expliquer une entrevue qui a dû être difficile à donner, là, on va se le dire, pour Philippe Sabourin, le porte-parole de la ville, qui était sorti en disant « Ouais, mais là, il faut que vous compreniez qu'on a commandé la pièce. »
Ça faisait 6 mois qu'on attendait. Il avait commandé la pièce.
On l'a commandé en millimètres et est revenu en pouces.
Une pièce faite sur mesure dans une fonderie.
Oui.
D'où le délai de 6 mois. C'est une pièce qu'on a attendue 6 mois avec le trou dans la rue.
On se comprend. C'est métallique. Là. C'est une espèce comme de grille porte qui devait être installée là. Là, elle est trop petite. Elle rentre pas.
Et là, on pensait qu'on allait attendre un autre 6 mois. Il faut repasser une commande à la fonderie avec les bonnes mesures cette fois-là. Mais
on a retrouvé une pièce qui pouvait servir dans un garage. Un entrepôt abandonné du service de l'eau de la ville de Montréal.
Moi, je me suis demandé, j'ai regardé la nouvelle, j'ai dit, ça, c'est-tu genre un employé retraité? Non, je niaise même pas. Un employé retraité qui a vu la nouvelle de la fonderie puis le bordel puis qui s'est dit, tu sais, du monde qui ont travaillé longtemps à la même place, ça me semble, là, À l'arrière de l'armoire, là, tu sais, on avait, je
une grosse porte, là.
Fait que là, il y a
24 par 36.
Allez donc voir à telle place, dans un entrepôt.
Puis, ils l'ont retrouvé. Ben, ce qu'expliquait Philippe Sabourin, plutôt aujourd'hui, au 98.5, entre autres, il disait, ben, oui, c'est des équipes. On a fait une espèce d'appel, là, sur nos réseaux sociaux, une espèce d'avis de recherche. Puis, il y a des gens qui l'ont trouvé dans un de nos entrepôts. Fait que peut-être que c'est un de ces vieux sages, un vétéran de la ville, Mario, qui a pu retrouver ça. Et là, ce qu'on dit, ben, c'est qu'on a pris cette pièce-là. C'était pas la bonne pièce, elle non plus, mais on l'a assemblée avec la pièce qu'on a reçue, qui était trop petite, et finalement, pif! Parfait. Comme un morceau de casse-tête dans la rue de Notre-Dame. C'est-tu pas beau tout ça?
Et on a rebouché le trou.
Et on a rebouché le trou. Là, c'est faire du neuf avec du vieux. On comprend que c'est censé être une solution temporaire, mais, selon le porte-parole de la ville, M. Sabourin, ça va durer 50 ans et plus, cette pièce-là, bon. Même si elle est rapiécée.
Mais M. Sabourin, il est pas venu parler à Benoît?
Non. Penses-tu qu'il n'a pas aimé sa dernière expérience?
Oui, parce que mon souvenir, c'est que notre collègue Benoît Dutrisac avait été un peu impatient là, avec M. Sabourin dans le dossier de la pièce qui ne fitait pas. Là.
Il l'avait pressé un tout petit peu.
Il l'avait pressé, ah oui! Il l'avait pressé de questions.
Oui.
Pertinentes.
Mais... on a retrouvé la pièce, c'était peut-être ça qui a...
C'est peut-être Benoît, on va en parler demain matin. D'après moi, c'est la pression de Benoît qui a fait régler ça.
C'est lui... qui a mis le feu aux fesses des employés de la ville de Montréal qui ont
pour chercher une pièce, ils ont viré toutes les armoires à l'envers.
Ils l'ont trouvé finalement. Bravo.
Économie.
Nouvelle moins drôle maintenant dans l'économie parce que c'est une quarantaine de travailleurs de l'usine Olimel du centre du Québec qui ont été licenciés, apprend-on, depuis la mi-février parce que on a choisi du côté de l'Olimel de transférer deux grosses lignes de production de bacon en Ontario. Donc c'est des emplois malheureusement mais qui vont se retrouver en Ontario et pas au Québec. On dit qu'il va pas y avoir de licenciement massif du côté de l'Olimel cette année, mais quand même, là, c'est une nouvelle comme ça qui vient toujours accrocher.
Mais c'est fou quand même parce que la personne qui fait son épicerie peut avoir l'impression que toute la chaîne de production alimentaire et de vente alimentaire s'engraisse puis fait des années face parce que les prix de la nourriture sont élevés, mais c'est le contraire. Là. Le monde agricole
est aux abois.
Est aux abois. Le monde agricole, on parle de baisse de revenus jamais vue, là, de revenus disponibles. Puis les transformateurs, maintenant un transformateur québécois comme Olimel, ça va tellement mal. Il coupe, il ferme des usines. Le secteur du porc va mal. Fait que tu te demandes comment...
Il est où l'argent?
Ouais, ça? C'est ça. Il est où l'argent? Mais il est partout, il est dans le transport, il est dans... Je pense qu'à la dernière étape, quand même, les détaillants font une bonne marge. Mais c'est curieux quand même que tu dis, avec les augmentations de prix, qu'on n'ait pas réussi à couvrir l'ensemble des filières pour que tout le monde gagne sa vie, là, que ça soit aussi dur dans le secteur alimentaire. C'est étonnant.
Le monde.
Ça a été annoncé tard hier soir. Le premier ministre haïtien Ariel Henry qui a annoncé sa démission à un moment où, on se comprend, le pays d'Haïti est en proie au chaos. Là. Vraiment, la situation qui a dégénéré. Mais c'était quand même quelque chose qui était demandé depuis un bon moment, là, à la fois par des opposants politiques et même par les gangs armés en ce moment, là, criminalisés, qui terrorisent Haïti.
Qui se sont calmés, semble-t-il, se sont calmés depuis la démission.
Oui, parce qu'il faut comprendre...
Ils sont prêts à participer à une espèce de coalition pour garder le calme dans le pays. En tout cas, c'était l'espoir hier soir, cette nuit.
Oui, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi le dossier, ça brasse. Hein, s'il vous plaît, ici, là, pour pas avoir de meilleurs termes pour ça, on a des gangs armés qui terrorisent un peu partout le pays.
Qui ont pris le contrôle de quartiers, qui ont pris le contrôle de la zone portuaire, qui ont pris le contrôle de l'aéroport.
Et de prisons aussi. Là, qui ont organisé
vidé des prisons.
Évasion massive dans des prisons. Donc vraiment, l'armée, la police qui sont complètement débordé. Et là, ben, Ariel Henry, lui, était censé être en poste là, jusqu'en février. On se souviendra qu'il avait été désigné, nommé par Jovenel Moïse, là, quelques jours seulement avant son assassinat et qui avait pris le pouvoir depuis. Là. Haïti n'a pas eu d'élection depuis 2016. Et là, on se retrouvait avec quelqu'un qui était censé quitter après février, qui ne l'avait pas fait. Et là, la grogne était dans les rues, entre autres choses.
Fait que là, le seul espoir, c'est que de cette... mettons qu'on réussit à tranquilliser les groupes armés, les opposants. Est-ce qu'on pourrait s'entendre sur la tenue d'une élection? La fois, il faut deux choses. S'entendre sur la tenue d'une élection et que chacun s'engage, parce que c'est une chose de faire une élection.
Ouais, mais faut que chacun soit libre.
Oui, puis il faut que chacun s'engage à respecter les résultats. À dire, regarde, on présente des candidats, il y a des partis, il y a des tendances, mais si tu gagnes pas, Tu peux pas faire comme Trump, dire si je gagne pas l'élection, elle a été volée, puis je pars dans la rue. Là. Il faut que chacun des joueurs, au départ, accepte le résultat de l'élection, dire regarde, on remet la parole au peuple, on va voter démocratiquement. Est-ce que ce sera possible à partir de maintenant? Faut se croiser les doigts, mais disons que ça n'a pas été facile. C'est difficile d'être optimiste là, quand on parle de l'avenir d'Haïti. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.